Les shiurim sont liés à l'essence de la compréhension de qui nous sommes avant de commencer à entrer dans l'étude de la Torah elle-même. La Torah est la parole divine qui nous a été transmise par l'infini béni soit-il, et il a créé un peuple qui est capable de concevoir, de recevoir, sans brûler, cette intensité lumineuse infinie. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de très complexe. Pour avoir affaire à l'infini, il faut avoir une résistance infinie. Et le peuple d'Israël a été créé avec cette résistance. Donc il faut vous apprendre vous-même qui vous êtes. La Torah vient nous enseigner qui nous sommes, qui est notre identité la plus profonde qui soit. Vous n'êtes pas des hommes individuels seulement, vous faites partie d'une nation. Et cette nation a été conçue par l'infini, béni soit-il, bien avant que le monde n'existe. Au moment où le monde a été créé, cette nation devait apparaître. Donc cette âme qui a déjà été créée avant a trouvé les individus qui vont véhiculer cette grande neshama et qui petit à petit, par les enfants, par les petits-enfants, allaient concevoir ce peuple. Et au moment où nous étions 600 000, eh bien cette grande neshama est rentrée en nous. Car nous sommes nés, en fait, à la sortie d'Égypte. De la même manière que la Neshama entre dans le bébé au moment de sa naissance, véritablement, la Neshama d'Israël est rentrée dans le peuple d'Israël pour la première fois dans l'histoire, le jour du don de la Torah. Et donc nous avons affaire à quelque chose de très sérieux. Quand je dis sérieux, ça ne veut pas dire qu'il faille faire la gueule. Sérieux, ça veut dire savoir quelle est l'énergie que nous touchons dans l'étude de la Torah. C'est pourquoi nous avons une règle, c'est d'abord le temps. Shiur en hébreu veut dire une mesure. Des shiurim, c'est des mesures. Le shiur commence à midi pile et se termine Be'ezrat Hashem à 1h. Ceux qui arriveront en retard ne seront pas reçus au shiur. Pas parce qu'on les punit, tout simplement parce que leur sérieux se verra de cette manière-là. On doit être dans le shiur. On attend de nous un respect, de nous tous. Et donc, vous-même, si vous êtes en retard, ne venez pas. Okay ? Ce sera la perte de tous. Parce qu'en réalité, on est là pour former une force qui est capable de recevoir le divin. Et bien, dans Hachem, ceux qui veulent suivre largement et avec beaucoup de respect cette Torah, vous êtes invités, comme l'a dit tout à l'heure le Rav, à poser les questions et à faire en sorte que nous soyons dans une interaction entre vous et moi. Alors, comme je ne vous connaissais pas, aujourd'hui, nous allons commencer, Be'ezrat Hashem, par poser certaines questions, et je vous demande donc de participer, si vous le voulez bien, si vous sentez le besoin, et si vous avez des questions à poser. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech ha'olam shakol nihi emimbo. Nous allons parler de Rosh Hashanah, et nous allons introduire aussi des notions qui traite de la Teshuva. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, crée notre monde, ça veut dire qu'en réalité, il y a une direction. Ce monde n'est pas laissé à l'abandon. Il y a un sens à toute la vie. Il y a un ordre à toute la vie. Et il y a en réalité, un vêtement par lequel le Créateur va se dévoiler dans sa création. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez les questions. Ok.
Et on est quoi par vêtement ?
Un vêtement, ça veut dire porteur d'un message. Par exemple, ta Neshama a besoin d'un vêtement pour apparaître dans ce monde. Donc on lui a donné un vêtement, c'est son corps. Ton corps, lui aussi, il a besoin d'un vêtement, donc tu t'es habillé. Pour que quelque chose se dévoile dans ce monde, il a besoin d'un vêtement. Par exemple, ma pensée, vous ne l'entendez pas. Mais je vais habiller ma pensée par ma parole. Donc ma parole devient un vêtement pour ma pensée. Et si mon vêtement correspond parfaitement à la pensée, eh bien il sera fidèle à cette pensée, et cette pensée passera, arrivera, vous atteignera. Mais si le vêtement, chas v'shalom, est décousu, n'est pas convenable, il y aura des difficultés à concevoir le message. Donc chaque chose dans ce monde qui doit se dévoiler, automatiquement doit s'habiller. C'est clair ? Le vêtement, c'est la possibilité de se dévoiler dans ce monde. Sans vêtement, aucun dévoilement. Quel ?
On est défini par le vêtement aussi, c'est une métaphore ou
c'est aussi une métaphore, mais c'est une réalité. Par exemple, ce thé a besoin d'un vêtement pour se dévoiler. C'est le verre.
Et nous, en tant que...
Toi, en tant que ustensile de réception, ta forme, la forme de ton visage, de tes yeux, de tes oreilles, de ton nez, de ta bouche, de tes doigts, de tout ton corps, me raconte, si je sais te lire, qui tu es dedans, dans ton intériorité. Est-ce que tu es capable de recevoir une lumière puissante, un peu moins puissante, un petit peu plus? Et donc on va gérer au fur et à mesure par rapport à ta transformation, parce que vous allez vous transformer au fur et à mesure que vous étudiez la Torah d'Eretz Israël. C'est une Torah très profonde dont le but n'est pas de vous donner de l'information, mais de vous faire grandir. Vous allez changer, vous allez grandir, et ce changement se verra aussi dans votre visage, dans votre corps. Dans quelques mois, quand vous allez peut-être retourner en France pour voir la famille, les gens ne vont pas vous reconnaître tout de suite. Votre visage aura changé par tous les éléments que vous aurez rencontrés ici en terre d'Israël. Vous allez vous transformer, vous améliorer, grandir, vous élargir dans le sens de la réception de la Torah, vous allez avoir une perception des choses qui va vous éloigner naturellement de ce que vous avez connu avant. Et donc même les amis que vous avez auront du mal à vous aborder, il n'y aura plus, comme avant, un langage aussi facile. Ils vont voir que vous avez grandi. D'autres questions ? Ok. Lorsqu'Akadol Bokhu se dévoile donc dans ce monde, lui aussi, il a créé un vêtement. Comment s'appelle le vêtement de son dévoilement ? Le monde. Le monde, avant la Torah. D'abord, il y a un monde. D'accord ? Le monde, c'est donc un vêtement. Quel est le rôle du vêtement ? D'abord, de cacher. On est d'accord ? Pour dévoiler, il faut cacher. Voilà un paradoxe. Je me cache et en même temps j'apparais. Très bizarre. Je me couvre et c'est comme ça que je peux sortir. Très bizarre. Comment s'appelle donc le monde en hébreu ? La cachette. Olam. Olam veut dire en hébreu se cacher. Donc la cachette de Dieu, on l'appelle la cachette. Seulement quand vous parlez français, on appelle ça le monde, mais vous n'entendez pas. En hébreu, Olam veut dire se cacher, Ne'elam. He'elem. Donc la racine du mot qui définit le monde dans lequel nous sommes, c'est la racine du mot couvrir, cacher. À partir du moment où on cache quelque chose, donc on va servir de couverture, d'une manière paradoxale, incroyable, c'est là où on va le dévoilé. Parce que maintenant, il y a quelque chose. Un autre exemple, les lettres que vous voyez dans le Sefer Torah, ce sont en réalité des vêtements noirs. Obligatoirement. La halakha nous dit que les lettres doivent être noires. Mais en réalité, ce sont des vêtements. Qu'est-ce que vous avez peint ? Une partie du blanc. Il faut imaginer que tout le Sefer Torah, c'est un blanc, parce que c'est l'infini. Mais dans cet infini, comme tu ne sais pas lire le blanc, on va couvrir certaines parties de blanc pour obtenir des lettres. Donc les lettres sont des vêtements. Et selon la forme du vêtement, tu vas savoir en réalité ce que dévoile, ce qui se cache sous ce vêtement. Parce que n'oubliez pas que sous la lettre, il y a encore le blanc. Et autour de la lettre, il y a encore du blanc. C'est-à-dire que la majorité du Sefer Torah, c'est le blanc. Et si on était capable d'entendre le blanc, on n'aurait même pas eu besoin des lettres. Donc les lettres, le texte n'est qu'un prétexte pour le blanc, pour le silence qui est à l'intérieur. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire ou ça va ?
Justement, je ne comprends pas à quoi ça...
À quoi ?
C'est quoi le but de...
Le but, c'est de dévoiler l'infini par des vêtements dans ce monde. Et étant donné que chaque parcelle d'infini se dévoile d'une autre manière, toi tu dévoiles à Kadosh Baruch Hu avec ta manière à toi, mais ton ami dévoile le même à Kadosh Baruch Hu d'une autre manière. Donc toi tu es une lettre et lui il est une autre lettre. Tu t'appelles comment en hébreu?
Binyamin.
Et toi? Quand vous allez regarder le Sefer Torah, toi tu regardes la lettre Bet et lui va regarder la lettre Aleph. N'importe où dans le texte. Il va falloir viser. Dès qu'on fait la Akbara, tu regardes ta lettre qui correspond par ton prénom et tu vas savoir que tu es un Bet. Et lui est un Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est déjà une étude. D'accord? Mais il faut que tu comprennes que si ces deux lettres ont une forme différente, ne serait-ce que dans leur écriture, c'est qu'elles dessinent, elles dessinent quelque chose qui est le même, mais sous une autre arrivée dans notre monde.
Et donc je parle dans le fait.
Tu es dans un dénominateur commun, tu as quelque chose de très rapprochant entre tous les éléments qui vont commencer par B. Seulement tu ne t'appelles pas seulement B, tu t'appelles Binyamin, donc il va falloir prendre lettre par lettre, et l'ensemble des lettres pour connaître ton vêtement. D'accord ? Vous avez compris ? Ok. Donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde de cette manière-là. Ce dévoilement, ça s'appelle sa royauté. En hébreu, la malchut, melech. C'est ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va dire, on va proclamer nous-mêmes, on va reconnaître qu'il est le roi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le roi ? À partir du moment où il est le roi, en tout cas par notre acceptation, je vous rappelle qu'il est roi même sans que tu le saches. D'accord ? Hachem Melech, Hachem Malach. Il était déjà roi bien avant que tu sois là. Mais toi, quand tu es arrivé dans ce monde, ta fonction c'est de l'accepter comme étant ton roi. S'il est ton roi, tu es son...
Esclave.
Pas esclave.
Serviteur.
Surtout pas esclave. Eve se traduit, comme tu dis, esclave, mais malheureusement, c'est une traduction en français qui est fausse. Eve veut dire travailler, la avod, donc tu es son serviteur, c'est-à-dire que tu vas l'aider. C'est toi qui aides Hachem par ta forme spécifique que personne n'a à dévoiler Hachem dans ce monde. Et si tu ne fais pas ta partie de travail et que lui ne fait pas sa partie de travail, est-ce que quelqu'un d'autre vous ressemble? Non. Donc personne ne pourra jamais te remplacer. Donc il y a un manque dans le monde à cause de toi, ou alors il y a un gain dans le monde grâce à toi. Donc chacun de nous est unique et irremplaçable. Et donc nous avons une responsabilité énorme. Donc à chaque fois que vous prenez la Torah au sérieux, vous comprenez pourquoi maintenant. Parce que personne n'est comme vous. Depuis la création du monde, jusqu'à la fin des temps, aucune personne dans ce monde a le même visage que vous, les mêmes empreintes digitales que vous, jamais. Même si c'est des Gilgulim, ce n'est pas la même. C'est une partie que tu n'as pas encore arrangée dans les Gilgulim d'avant. Okay, donc c'est toujours quelque chose d'autre. Gilgulim, peu importe. Il a posé une question, mais ce n'est pas le but maintenant du cours. C'est toutes les réincarnations, c'est-à-dire les corps dans lesquels la Neshama revient. Il faut savoir que ce n'est pas toute la Neshama qui revient. D'accord ? La partie qui a déjà été complétée reste dans une armoire secrète, dans un autre domaine. C'est clair tout ce que je dis ? Posez des questions. Donc Akadosh Baruch Hu se dévoile dans notre monde et ça s'appelle le royaume de Dieu sur terre. Et donc nous devons l'aider, travailler avec lui pour qu'il se dévoile. C'est bizarre, il a besoin de nous ? Oui. Pourquoi il a besoin de nous ? Parce qu'il a créé le monde de cette manière-là. Il aurait pu créer un monde où tout est robotisé, mais il a voulu, par sa bonté et son intelligence infinie, créer un monde où nous, les hommes, nous participons à son dévoilement sur terre. Donc chacun de nous va être comme une lettre de la Torah. Okay. Tout simplement parce que c'est le but du jeu, c'est un grand jeu. Je veux me dévoiler et vous allez m'aider à dévoiler ce que je suis dans mon infériorité pour que j'arrive sur terre. Si je t'achète un avion, un petit avion modèle, tu vas t'amuser avec pendant une semaine, deux semaines, un mois, et après tu vas le laisser de côté. Mais si je t'aide et tu vas m'aider à fabriquer l'avion, tu vas garder cet avion toute ta vie. Parce que tu auras fait quelque chose pour faire dévoiler la chose en question. Il aura une certaine valeur. Donc maintenant, si Dieu se dévoilait sans toi, il peut le faire. Il l'était déjà avant que tu arrives. Et il sera après que tu sois plus là. Tu as 120 ans. Mais son plaisir, entre guillemets, infini, c'est que tu fasses partie de ceux qui le dévoilent. Donc tu vas devenir un shoutaf, un partenaire à Akadosh Baruch Hu dans ce dévoilement. De la même manière que moi, quand je parle maintenant, je suis une neshama qui suis dans un corps, on est d'accord ? Tous les éléments de mon corps, mes doigts, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, font partie de ce dévoilement que je suis en train de dire maintenant. Quand je me suis levé ce matin de mon lit, tout mon corps s'est levé avec moi. On est d'accord ? Imaginez-vous une oreille qui dise au reste du corps, allez-y, je vous rejoins plus tard. Okay ? Ça vous fait rire. Mais c'est pas évident que tout le corps se lève. Alors c'est vrai qu'on a laissé quelques cellules dans le lit qui sont mortes. C'est fini. Elles font plus partie de moi. Et tous ceux qui se sont levés avec moi et qui viennent jusqu'à ce coup vont participer à tout ce que je vais faire dans ma Torah, dans tout ce que je vais faire dans le Kodesh, dans le Chol, dans tout. Alors maintenant je donne un shiur, eh bien mon petit doigt, qui n'a apparemment aucun rapport avec ce shiur, eh bien il a aussi une récompense parce qu'il était là. Parce qu'il a participé à me donner un sentiment que je me sens bien pendant que je parle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ?
Non.
Explique-moi ce que tu ne comprends pas.
L'existence du petit doigt.
Tu es d'accord avec toi que je suis une entité ?
Oui.
Donc tous les éléments qui forment mon corps participent à ce que je vais faire dans ma vie. Si tu fais ton alia, est-ce que tu peux dire que ton petit doigt, il a fait son alia?
Non, c'est moi qui fais mon alia.
Mais il a fait avec toi. Il a participé.
Mais c'est parti de moi.
Donc. Il a fait mes autres. Est-ce que ce petit doigt peut se dire un jour, je ne veux plus faire partie de ce corps? Comment tu t'appelles?
Nathan.
Nathan. Je ne veux plus faire partie de Nathan. C'est possible?
Non.
Oui, c'est possible.
Allez.
Ça s'appelle le cancer. Quand il y a une cellule du corps qui ne veut plus participer pour une raison X ou Y à toute la vie de Nathan, Chas v'shalom, lo alechem v'lo al af echad, c'est la maladie que je viens de citer. Donc ça existe. Ce que je veux te dire par là, c'est que si en tant que individu qui fait partie de ce grand peuple, je ne veux pas participer à l'histoire de mon peuple, je représente cette maladie, Chas v'shalom, pour mon peuple.
Oui, mais la maladie, ce n'est pas le corps qui va la produire, c'est la maladie, on va l'attraper quelque part. Donc en soi,
pas du tout.
Non.
Pas du tout. Pas du tout. Ça ne se colle pas. Tu peux embrasser quelqu'un qui a un cancer, tu ne vas pas attraper le cancer. C'est des cellules dans ce corps qui ne veulent plus jouer le rôle du corps tout entier. Ces cellules, elles se disent, moi, j'en ai rien à faire. Je sors du lot.
Ça veut être créé pour ça.
Pour.
Pour faire partie de moi.
Il y a fenol. Donc, si elles ne font pas partie de toi à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose de malade. Ça s'appelle dans la Torah le rachat. Qu'est-ce que c'est un rachat dans la Torah? Vous le dites dans la Haggadah de Pesach.
Comment on dit?
Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Rachat.
Ah, c'est des fausses contre les
juifs. C'est pas des fausses. Il a fait une fausse, mais comment les Chachamim disent? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il résume les sages?
Il
a fait non. Les filles, à cause du fait que Shehotsi, qui s'est sorti, est Asmo, lui-même, min haklal du tout, kafar baïka. Il a en fait renié le tout et donc c'est devenu un rachat. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rachat? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il a envie lui, sans prendre compte.
Comme la cellule.
Exactement. Donc maintenant, les initiales du mot rachat, resh, shin, ayin, c'est ratson, shel, atmo. C'est-à-dire celui qui ne veut que pour lui-même, il n'en a rien à faire du clan.
Ratson, shel, atmo.
Exactement.
Ratson, c'est
la volonté de lui-même. Ratson, shel, atmo.
Alors pourquoi on dit à quelqu'un, c'est un rachat?
Chas v'shalom, qui dit une chose pareille? Tu insultes comme ça un homme d'Israël?
Non, par exemple, je prends quelqu'un qui vient de voler une banque.
Et alors? D'où tu sais? C'est un rachat. Comme ça, tu définis les rachats?
Ouais.
Moi, depuis que je suis né, à chaque fois que j'ai un mariage, tout ce qui monte à la Torah, tout ce qui monte au mariage pour faire les brachot, on les appelle tzadiki, machin. Et même David Amelch me dit, Be'amer kulam tzadiki. Et toi, tu l'appelles rachat? Fais attention. Le rachat, ce n'est pas la définition qu'on croit. Le rachat, c'est quelqu'un qui sort du lot, qui ne veut pas faire partie de sa nation, de l'histoire de sa nation et de ce grand corps qui s'appelle Israël. Pour savoir que tu fais partie de ce corps Israël, il faut étudier qui est ce corps qui s'appelle Israël. Voilà ce que je vous propose, les autres HM, d'étudier cette année. Okay. La même chose. Le suicide, c'est une volonté d'arrêter la participation et donc il y a ici une avéra très grave, quelque chose de très grave. Parce que tu ne fais plus, tu ne veux plus, je ne suis pas en train de juger pourquoi et comment, mais le fait est que cette personne s'est retirée elle-même de par sa volonté de l'histoire qu'elle devait fournir et aider à l'humanité tout entière. Donc il y a, à cause de cet acte, Chas v'chalila, un soldat en moins, qui s'est donné la mort. C'est là? Donc faites très attention avec tout ça. Donc dès que maintenant, dans mon corps, j'ai un soldat blessé, qu'est-ce que je fais? Tout le corps va se mettre en place pour le guérir. j'ai mal au petit doigt, eh bien, tout le corps va se mettre en marche pour soigner ce petit doigt. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, il reviendra. Donc tout le monde lui aura fait passer des énergies de guérison et il guérira. On est d'accord ?
C'est pas le cas pour la petite cellule ?
C'est justement. Dans certains cas, oui. Si on arrive à la ramener, en fait, dans le tout.
C'est rare, non ?
D'accord.
Mais,
tu viens de comprendre maintenant quelle est la guérison à cette maladie. C'est de trouver quelque chose qui est exactement. Maintenant, au niveau du peuple, tu comprends ce que ça veut dire. Ramène tes amis qui n'ont pas encore compris ce que représente la Torah, Israël, la nation, la terre et tout ça. Ce sont comme des cellules perdues, chas v'shalom. Il faut les ramener vite dans ce grand tout, pour les guérir. Quel?
Tout ce que j'aime fait, c'est pour le bien. Alors si un jour, c'est pour le cancer, elle me...
Ok. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien.
Voilà. Alors si un jour, j'ai une maladie...
Tu crois que c'est pour le bien?
Oui.
Est-ce que c'est ce qu'il veut, Hachem? Est-ce que Hachem veut qu'une personne meure?
Non. Alors pourquoi il veut venir cette maladie?
C'est pas lui qui fait venir.
C'est toi.
Qui a déjà donné une conclusion dont tu as posé la question. C'est la personne qui est sortie de son rail de vie, donc qui a quitté son équilibre et qui est tombée malade. Moralité, toute maladie est une sortie de l'ordre. Et toute guérison, toute santé est revenir. Alors, si tu es désordonné dans ta vie, que tu ne dors pas assez la nuit, que tu ne manges pas bien, que tu fasses des choses, c'est toi qui détériores la structure qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Première teshuva dans le livre du Rav Kook, Zatzal, teshuva corporelle. Mange bien, soigne ton corps. Fais attention à ce que tu fais, même quand tu portes quelque chose de lourd. Prends-toi un sac avec des roulettes pour ne pas que tu fatigues ton dos, parce que si tu es malade, c'est ta faute. Moi, Hachem, je ne veux pas que tu sois malade. Parce qu'un soldat malade me sert mal. Et donc, il ne va pas être partenaire comme je le veux pour dévoiler mon nom sur terre. Exactement. C'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire égoïste? Il y a un but à toute la création.
Ce
n'est pas une question d'ego. Au contraire, s'il était égoïste, il ne t'aurait même pas créé.
S'il est malade, il va mal me servir.
Mais quoi?
Il est trop pensé au service. Pour mieux penser à la guérison avant tout.
Mais la guérison, c'est le service. C'est-à-dire faire venir de la vie dans ce monde. Quel est ton but dans ce monde? C'est de continuer la vie éternelle dans ce monde. Tu dois continuer son éternité. Tu dois continuer la vie. Tu dois continuer ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? La joie, le bonheur, la richesse, la bonté, l'amour. Tu es?
C'est le rôle général.
Mais d'une manière générale, si tu es malade, tu ne peux plus faire ça. Tu vas être triste.
Pourquoi?
Tu vas être malheureux. Parce que
si tu es malade, tu peux garder les choses quand même.
Mais oui, mais tu ne peux plus servir convenablement, complètement, avec toutes tes formes. D'accord? Il y a un manque. Chez ce soldat, il y a un soldat blessé. Il va falloir que toute la force vienne le soigner pour le ramener à la vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, au contraire. C'est une pensée qui est tellement globale que Akadosh Baruch Hu fait en sorte que le monde soit en équilibre parfait. Regarde, tout tient. Incroyable. Des milliards d'étoiles qui tiennent dans le ciel, dans le vide. C'est un ordre. Qui fait ce cosmos? Cosmos égale ordre. Il y a un ordre dans l'univers. Ton corps, tout le temps qu'il marche, tu ne le sens même pas. C'est bizarre, non? Je suis en train de te parler, tu ne sens même pas ta tête. Quand est-ce que tu sens ta tête? Non, quand tu as mal. C'est bizarre. Alors, le seul moment dans la journée où tu sens ta tête, c'est parce que tu as mal. Tu ne trouves pas ça bizarre? D'ailleurs, en hébreu, avoir mal à la tête, ça se dit Khash Berosho. Il sent sa tête. C'est-à-dire qu'avant, il ne la sentait pas. Donc, on n'est même pas conscient de tout ce qui marche convenablement, avec équilibre. Et on est conscient, on commence à devenir conscient quand quelque chose ne va pas et qu'on commence à avoir mal. Alors là, tu te dis, mince, j'avais un doigt. Comment ça se fait qu'il ne fonctionne pas? Tu t'es jamais posé la question et tu n'as jamais remercié véritablement avec une conscience tous les jours où tu te levais et tout marchait bien. C'est-à-dire on se réveille que lorsque ça va mal. C'est pas normal ça. Qu'est-ce?
Des enfants qui naissent avec des maladies.
Alors, c'est pas le sujet de notre cours, c'est en réalité par rapport à toute leur histoire. Parce que toi, tu ne vois qu'un extrait de l'histoire, qu'un épisode dans le film de cette personne, mais cette personne, ce bébé qui vient de naître, il n'est pas nouveau. Il est le résultat de plein de choses avant lui qui ont fait en sorte qu'il arrive de cette manière dans ce monde. Lui-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est des choses qui touchent à une Torah beaucoup plus secrète de la Kabbalah, et qui parle en réalité de ce que la Neshama est et ce qu'elle a fait et pourquoi elle revient de telle et telle manière. D'accord? Mais il y a un film. C'est comme si tu rentrais dans un épisode numéro 25, alors qu'il y a eu avant 24 épisodes, et qu'après il y en a encore 200. Tu comprends rien. Parce que tu n'as pas vu les épisodes précédents. Donc tu te dis, mais c'est quoi ce film? C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Il y a un risque. Alors ça, c'est dans un film. Imagine-toi dans le film d'Akadosh Baruch Hu. Tout est ordonné, tout est vrai, tout est structuré. Et nous, on a du mal à comprendre. Mais on est là pour étudier Be'ezrat Hashem le plus possible pour atteindre un tout petit peu de cette droiture divine qui tzadik ve'yachar hu, parce que lui est un tzadik et un yachar. Tout est vrai, tout est limpide. Tout est structuré, tout est précis. Rien ne défaille. Chez nous, il y a des défaillances. Chez nous, il y a des chutes. Chez nous, il y a des faiblesses. Chez lui, il n'y en a pas. Donc il faut faire très attention quand on parle de lui par rapport à ce que nous sommes. Quel?
Mais par rapport à la maladie, une personne qui... Alors peut-être que, je sais pas, justement, comme vous l'avez dit, ça peut dépendre de plein de choses, mais une personne qui paraît, mais mettre quelqu'un de une personne bien, et là, qui se porte bien, comment ça se fait que, voilà, elle a pas cette maladie.
D'accord, tu as raison. Ça veut dire que nous sommes tous liés à la première faute du premier homme. Et à cause de la faute du premier homme, nous subissons jusqu'à aujourd'hui cette faute. Donc aujourd'hui, on est obligé de passer par l'étape de la mort, alors que tu as affaire aussi à des grands tzadikim comme notre maître, qui est parti il y a 2 semaines. Bien sûr, et alors? Je crois que le temps existe dans les causes et les conséquences, même s'il est passé 5000 ans, et alors?
Dans tous les cas, dans la façon...
C'est ça le lien. Maintenant tu poses la vraie question. Tout à fait, au moment de la venue du Mashiach. Donc au moment de la venue du Mashiach, qu'est-ce qui disparaîtra de la vie?
Il est déjà venu, le Mashiach.
Le Mashiach n'est pas encore venu.
Ben, quand on a eu le premier temps, tout ça, il n'est pas déjà venu.
Non, pas du tout. Le Mashiach n'est pas venu. Le Mashiach, il construit le temple, mais il continue. Ça se perpétue. Il n'y a pas une destruction. C'est fini.
Qui est
de son époque, mais ce n'est pas encore le Mashiach Tzidkenu qui est clôture l'histoire. D'accord? On l'appelle Mashiach, toi aussi tu es Mashiach, tout le monde est Mashiach. Al tig'ou bimshichai, ne touchez pas mes Meshichim. Je le dis tous les vendredis soirs dans tes chansons avant d'arriver au Shema Israël de la Tfila. Al tig'ou bimshichai, ou binvi'ai al tareu, ne faites pas du mal à mes prophètes, donc tu es prophète, et ne touchez pas mes Messies parce que tu es un Messie aussi. Donc, est-ce que tu as fait actionner ton muscle prophétise? Pas encore. Est-ce que tu as fait activer ton muscle messianique? Petit à petit. Tu as fait un gros effort, tu es venu maintenant en Israël. Okay? Tu viens d'activer un muscle qui était atrophié, endormi pendant 2000 ans. Tu es en train de guérir. Donc la terre d'Israël, c'est un grand hôpital où tous les malades se rejoignent pour commencer à guérir petit à petit. Donc nous sommes tous en convalescence. Tu commences seulement maintenant à guérir. La première fois que j'ai mis les pieds dans cette yeshiva, c'était il y a 28 ans, j'ai écouté un cours d'un rav un soir. Je suis descendu dans ma voiture et j'ai pleuré pendant une heure et demie. Je me suis dit, mais où j'étais jusqu'à maintenant? J'ai raté ma vie. Akadosh Baruch Hu, si tu me donnes les forces, et moi je vais faire l'effort, de grandir dans cette Torah et de devenir enseignant dans cette yeshiva. Mais c'est ce qui s'est passé. Comment est-ce possible que j'ai senti ce mal? Tout simplement parce que j'ai vu la lumière et moi, avec mon décalage, j'ai senti en réalité cette faiblesse. J'étais mort d'angoisse. J'ai eu l'impression d'avoir raté ma vie. Quand tu commenceras à sentir cette douleur, ça veut dire que tu es en train de guérir. Quelqu'un qui saigne et qui ne sent pas qu'il saigne, il est en danger. Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de se vider de son sang. Mais quand tu commences à sentir que quelque chose ne va pas, c'est que tu es déjà en train de guérir. C'est vrai? Donc la souffrance fait partie du processus. Ok.
Moi, j'ai une question. Ça peut être aussi, je reviens
à ce qu'on a dit, parce qu'on change. Il
n'y a pas de souci. Vous avez dit que du coup, on peut payer, on peut expier les fautes de l'âme.
D'accord. C'est pas qu'on peut, on est.
Mais ça peut aussi être vraiment un mal pour un bien d'avoir
tout
un
bien. Tout à fait.
Dans ces cas-là, comment on peut reconnaître quand on a un obstacle, si c'est une expiation ou si c'est un mal pour un bien? Il y a une méthode de...
Malheureusement, il y a une méthode. Je vois que tu es très intelligent, c'est bien. Il y a une méthode. Mais généralement aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est capable de voir les choses seulement après. C'est-à-dire que 10 ans plus tard, tu vas te dire, waouh, 10 ans avant, j'avais pleuré comme si c'était la fin du monde parce que Françoise m'a quitté. Et 10 ans après, tu te dis, mais quelle bracha, c'est grâce au fait qu'elle m'ait quitté que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Donc on n'arrive pas à voir les choses directement, mais là, cette étude va te permettre d'avoir des ustensiles de plus en plus grands, où tu vas pouvoir voir quoi? Les causes et les conséquences. Ça, c'est le but de cette étude. C'est que tu vas t'élever comme si tu es sorti de toi-même pour pouvoir voir ton passé, ton présent et ton futur. Ça veut dire que tu es censé devenir de plus en plus divin tout en restant un homme dans ce monde, dans ton corps.
C'est pas vraiment un mal pour un bien parce qu'au final, il y a la mort.
D'accord, tu as raison. D'une manière générale, il y a la mort, sauf 5 personnes dans la Torah qui ne sont pas mortes, qui sont montées avec leur corps et qui sont sorties en réalité de ce grand klal. C'est-à-dire qu'il y a une règle générale, mais il y a des degrés qui, des exceptions qui vont confirmer cette règle. Un d'entre eux, c'est le père de Moshe Rabbeinu, l'autre c'est Hanor, Eliyahu Hanavi. Ils sont avec leur corps de l'autre côté, ils ne sont pas morts. Leur mort n'est pas signalée, et les sages nous disent dans la Gemara qu'ils ne sont pas morts. Ça veut dire que ça existe, que c'est possible. C'est ça que ça veut dire. Et que c'est le but. Attends, il y avait une autre question avant. Excuse-moi.
Est-ce qu'on paye les fautes des 10 bougies précédentes?
tu ne payes pas les fautes de tes guigoulines, c'est toi-même.
Oui, mais c'est une partie. Oui,
non, c'est toi, en fait. C'est toi-même, ça fait partie de ton histoire à toi. Tu as un schéma, un code génétique, et tu répares certaines choses, mais c'est toujours la même personne, c'est ton histoire.
Donc c'est normal que je paye la faute de Adam.
Exactement, c'est toi-même, c'est pas que tu payes la faute de Adam. Adam, c'est toi.
Mais non, je suis une infime partie de lui.
Et c'est exactement pareil. Tu fais partie. Est-ce que dans ma cellule que tu prends ici, il y a exactement les mêmes données que tout mon corps?
Oui.
Oui, c'est pareil.
Mais vous allez me dire que quand Adam Harrison, il a fauté, tout son corps, il a voulu
fauter. Peu importe.
Mais non, c'est que moi, je suis la partie.
Tout à l'heure, je t'ai dit que quand je suis venu à la yeshiva, tout mon corps est venu à la yeshiva. Donc, lorsqu'Adam Harrison a fauté...
Vous avez demandé à votre petit autre qu'il est d'accord que vous venez faire corriger.
La preuve, c'est qu'il est là.
Mais vous l'avez obligé.
Non, non, c'est lui, par sa conscience intérieure, dont il ne comprend rien.
Mais toi, t'as pas de conscience.
Si.
Non.
Comme toi.
C'est tout dans...
C'est toute une entité. Une conscience que tu ne comprends pas. Est-ce qu'une vache a conscience de son être?
Non.
Non. Mais elle vit. Et si tu viens l'embêter, qu'est-ce qu'elle va te faire? C'est tout. Est-ce qu'un chat sait qu'il est un chat?
Non.
Non. Mais quand tu viens l'embêter, il va te griffer. Il se protège. C'est-à-dire qu'il a une conscience de son être. Mais il y a une conscience comme ça. Ça s'appelle, tout ce que je viens de donner, la Emouna. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est le fait que vous soyez vivant. C'est tout. Même si vous ne comprenez pas encore. Exactement. Instinctive et active.
Une vache, elle a plus d'Emouna que moi?
Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Je vais te répondre. Ce n'est pas blessant. Non, je vais t'expliquer. D'abord, j'ai rien dit, c'est toi qui as tout dit. Je vais t'expliquer. La vache, elle vit complètement son être. Elle est vache. Est-ce que toi, tu es vraiment toi et fidèle à ce que tu es?
Non.
Ah, donc qui est en train de dire que c'est blessant? Toi-même. Qu'est-ce que je suis en train de te demander dans ce chiot? De te rapprocher le plus en plus de...
Moi.
Exactement. La seule différence pour laquelle toi, tu n'arrives pas encore à faire ça... Exactement. Bien joué. C'est que ton instinct n'est pas instinctif.
Moi, je dois le travailler.
Merci. Parce que tu as un libre choix. Que l'animal n'a pas, il a tout simplement un instinct de vie.
Parce que l'animal, il meurt comme il est.
Exactement. Il est, c'est tout. Il vit. Voilà. Mais toute chose dans ce monde vit. Tout. S'il n'y avait pas l'infini, béni soit-il, qui traverse ce stylo, tu ne l'aurais jamais vu. Tu es d'accord qu'il y a de l'infini dans ce stylo?
Tu peux pas le voir, mais...
Tu peux le voir. Tu prends un appareil aujourd'hui, tu peux voir que ce stylo est fabriqué de molécules qui sont en train de circuler à une vitesse incroyable à l'intérieur. Ce que tu vois ici, c'est une illusion. Le véritable monde se trouve dans un degré caché. Alors il y a une telle condensation que tu as l'impression de voir un objet. Mais la véritable force, c'est l'énergie. C'est vrai? Tout à fait. Mais on peut l'utiliser aussi.
Et alors, c'est la même chose?
C'est la même chose. C'est une valeur absolue. Je peux écrire un chèque, ou alors je peux écrire une insulte, avec la même puissance. La neshama que Dieu a placée en moi, elle peut me servir à venir donner un cours, ou à aller chas v'shalom voler. C'est la même âme. Donc j'ai utilisé la neshama de Dieu pour aller voler. Chas v'chalila. Comprenez? Tout est en notre possession. Ce chiour n'est pas encore un chiour, c'est juste une mise en place pour vous mettre à réfléchir. C'est-à-dire pour vous pousser à commencer à réfléchir, dès qu'on se mettra à étudier réellement, pour l'instant c'est juste pour vous connaître, je voulais savoir de quelle matière vous êtes fabriqué, donc je commence un tout petit peu à vous déceler, okay. Pour ceux qui ont parlé, là, je vais connaître les autres. Okay.
Une vache.
Une vache sert à Kadosh Baruch Hu. Tout simplement, le fait qu'elle vive c'est le dévoilement de Dieu à travers cette vache.
Alors pourquoi on n'a pas été fait animal sans le barmitzvah?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que Akadosh Baruch Hu, tellement il n'est pas égoïste, qu'il a voulu nous donner la possibilité de participer à notre être. C'est une création divine, c'est une bonne question, mais en toi, tu as aussi une partie animale. Tu as une partie végétale, tu as une partie minérale, et tu as la partie homme. Tu manges des tomates? Et alors, quand tu commences à manger une tomate, tu es d'accord avec moi que le monde végétal est rentré dans ton système. Donc, à l'intérieur de toi, il y a des végétaux.
Oui, mais après, on les évacue.
Ok, mais tu n'évacues pas tout. Le sang, il est rempli de toute cette énergie et ainsi de suite. Donc, il y a tout. Dans tout. Donc, à chaque fois que je mange une tomate, qu'est-ce que je fais? J'élève le monde végétal et je le rends humain. Quand je prends une vache et que je la tue et que je prends sa peau et que j'en fais des tilines, heureuse soit la vache qui est devenue une paire de tilines. Elle va monter devant Dieu, elle va lui dire j'ai servi à être les tilines de Rachid.
Ah oui, c'est le monde alors.
D'accord.
C'est la
bracha. D'accord.
La
servie, tout à fait. Si tu as la kavana quand tu manges, de faire élever ce monde animal. C'est un problème. Alors Léa, tu arriveras à ça. Pour l'instant, tu manges parce que tu crèves la dalle. Un jour, tu mangeras pour élever ce monde que tu es en train de consommer. Voilà. Dieu, il veut. C'est toi si tu veux. Si Dieu veut, c'est à l'ancienne. Dieu veut. Quel?
Oui, ce serait évidemment ce qui fait monter avec leur corps. Mais en soi, le corps, il est dans une dimension chimique, c'est-à-dire que c'est dur de vivre avec un corps.
Tout à fait. Donc tu es conscient maintenant du mariage incroyable entre l'infini et le fini. Entre la neshama qui est en toi et le corps qui apparemment est fini.
Le mariage, il est plus beau. C'est que la neshama qui est infini, qui est en plus infini.
Au contraire, c'est beaucoup plus riche parce que tu prends en compte aussi un degré de ce monde qui est très 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 loin. Imagine-toi que toute la Torah ce ne serait que de la spiritualité. On serait des vapeurs. La beauté de la Torah c'est qu'Akadosh Baruch Hu, son infinité, a créé un monde avec des vaches, des chiens, des chats, des oiseaux, des morceaux de sable.
Si vous mangez du blanc et du noir, ça va pas bien. Si vous mangez que du blanc et du noir,
c'est pour ça que je te dis de rester dans ton monde corporel, mais d'arriver à manger avec la kavana et non pas parce que tu crèves la dalle. Tout à fait, exactement. C'est beaucoup plus. Ok, on va terminer dans deux minutes. Alors, deux questions.
Tout à l'heure, vous avez dans une envie de bonté, vous avez créé.
Okay.
Mais en fait, à quoi ça lui sert?
Ça c'est la question, c'est une grande question, qui est une question qui est très profonde, qui touche à la Kabbalah, donc on ne va pas parler de ça maintenant, mais il y a bien entendu un but, un ordre à tout ça, mais ce n'est pas encore de notre niveau. Bezrat Hashem, Léat, on va rentrer dans des considérations beaucoup plus profondes.
Vous dites que, par exemple, heureuse soit la vache qui a servi pour faire les péchés. Mais quand vous dites heureuse, que ça va lui servir, en fait, elle va servir à quoi? Elle est morte, elle a un
olamama, la vache? Tout à fait. Dans son degré à elle, elle a participé.
À 120 ans, ça va avec des animaux?
Non. Il y a un monde, je vois que tu as un imaginaire qui est développé. Donc tu as un sens artistique assez développé. Okay. Tu fais de l'art, tu aimes l'art, tu devrais un petit peu toucher. Il y a des niveaux où ce qui se trouve dans ces niveaux-là, c'est le monde animal. Pas forcément des vaches, c'est-à-dire le degré animal. Tu es d'accord avec toi que quand je te parle maintenant, il y a ta conscience qui écoute, mais qu'il y a aussi un degré animal qui vit. Animal veut dire animé, je suis animé d'une vie. Mais ça existe en toi. Mais c'est la même chose. Donc oui, cette vache a participé à l'amélioration de la vie. à l'évolution du monde. Okay.
Mais à quoi ça nous sert, à nous, en tant qu'être humain, de faire tout ça?
C'est la même question que lui. À quoi ça sert tout ce jeu?
Qu'est-ce que ça va nous apporter?
Non. Pour l'instant, tu ne comprends pas, mais en réalité, le plaisir est infini. Tu vas toucher, en fait, à un plaisir que tu ne comprends pas aujourd'hui. Et c'est vers ça que le monde est en train d'aller, vers le dévoilement d'un plaisir continuel qui ne s'arrête jamais, d'avoir participé à l'évolution de ce monde. Donc tu vas grandir à des dimensions que tu ne comprends pas. Je peux juste te donner un petit détail, tu vas commencer à te déplacer en un instant, d'ici jusqu'à Tzfat. Par tout simplement ta pensée, tu vas te retrouver à Tzfat. Tu vas commencer déjà à kiffer. Bien, tu n'as pas besoin de prendre une voiture, le bus, les bouchons. Bien, ça existe. Mais c'est un autre domaine. C'est une autre dimension. C'est bien. Le Harizal, il n'y a pas très longtemps, voyager comme ça. Baba Salé, il y a encore moins longtemps, voyager comme ça. D'un village à un autre village. Un de mes maîtres a vécu cette expérience avec Baba Salé, main dans la main. Un de mes maîtres, avec lequel j'ai étudié, qui m'a raconté qu'il est sorti d'un village, il a fermé les yeux, il était dans un autre village à 200 km de là-bas, en un instant. Main dans la main. C'est pas Harry Potter. Quel?
Okay.
Hachem, il a donné la Torah parce que c'est le véhicule qui correspond au monde. C'est-à-dire, c'est pas un mode d'emploi. C'est la matrice avec laquelle le monde fut créé. Tout simplement parce qu'il n'a pas donné à tout le monde, hein. Il a donné à Israël. Parce que nous, Israël, on fait partie de cette matrice. On a la même formation intérieure. D'accord, que cette matrice. C'est pour ça que le Zohar nous dit, Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule et même chose. D'accord? Khadou. Ok. On termine.
N'achod.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une réalité, oui. Tu vas le faire tout à l'heure.
Comment on fait pour le minéral, parce qu'on mange pas des pierres?
Tu manges pas de pierres? T'es sûr? Tu sais combien de morceaux de végétal, de minéral, de sel? Le sel, c'est minéral. L'eau, c'est minéral. Tu bois un petit peu? C'est pareil. Pourquoi immédiatement le minéral est devenu chez toi du sable? Il y a beaucoup de minéraux dans ce monde. Et je te rassure, même quand tu manges une tomate, il reste encore quelques grains de terre que la vache a mangé. Donc la vache a mangé et de la terre et de la tomate, qui est devenu toi aussi le mangeur de la vache. C'est en réalité ce que tu dis dans Khadgadia, Khadgadia, Khadgadia. Chacun il est venu, il a mangé l'autre, il est devenu l'autre. Toutes les grandes questions de ce monde, les questions profondes, les plus improbables, font partie aussi de l'étude de la Torah. Je ne vous interdis pas de poser des questions, attention. C'est juste que je vous dis qu'il y a certains niveaux, tout doucement, on va commencer à étudier, et vous allez voir qu'on va arriver à des notions profondes.
Vous avez une question pour me poser, que vous nous avez dit que c'était de la Kabbalah, plus tard, et qu'on pourra
appeler les... Exactement. S'il te dépasse aujourd'hui, il va devenir acquis dans quelques temps. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Toda Rabba Lachem, et tâchez d'être à l'heure, s'il vous plaît.